La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 25e émission de la Semaine de l'Art, après une interruption estivale qui fut, j'espère, heureuse pour vous et pleine de soleil. Nous recevons, oui, pleine de soleil, Louis-Antoine Pratt, effectivement, fait un mouvement de tête. En tout cas, moi, j'ai eu du beau temps dans mes vacances, dont je parlerai d'ailleurs un petit peu dans les brèves. Donc, nous recevons, pour cette 25e émission, Louis-Antoine Pratt, historien de l'art, collectionneur, mais beaucoup de choses également. On parlera de toutes ses activités avec lui. Bonjour, Louis-Antoine.
Bonjour, Didier.
Et comme d'habitude, nous commençons par une chronique. La chronique. Selon la Fédération Patrimoine et Environnement qui les a comptés, Flore Pellerin est devenue la 25e ministre de la Culture de la 5e République, un poste dont le premier titulaire a été André Malraux. Nous avouons ne pas avoir fait nous-mêmes le calcul. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'elle est la 6e depuis la création de la Tribune de l'Art. Les ministres passent, et nous restons, c'est déjà ça. Car les raisons de se réjouir de cette valse ministérielle sont minces. La seule étant finalement qu'on est toujours soulagé de voir partir le titulaire du poste. Ce constat en même temps est terrible. Nous accueillons à chaque fois les nouveaux arrivants avec un peu d'espoir, très peu à vrai dire, et beaucoup de circonspection, mais sans jamais leur intenter de procès d'intention comme la consultation de nos anciens articles le démontre aisément. Se sont ainsi succédés Jean-Jacques Ayagon, Renaud Donnet de Vabre, Christine Albanel, Frédéric Mitterrand et Aurélie Filippetti. Hélas, il n'y en a pas eu un pour racheter l'autre, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, comme si ce poste était décidément maudit. Que doit-on attendre de Flore Pellerin? Pour rester cohérent avec ses propos, attendons de voir. Qu'elle n'ait jamais montré le moindre intérêt pour le patrimoine et les musées est évidemment un peu inquiétant, mais parmi ceux que nous avons cités, au moins deux, Jean-Jacques Ayagon et Frédéric Mitterrand, avaient un certain goût pour ces domaines. On a vu le résultat. Il est vrai que, déjà, certains signes ne sont pas encourageants. Invité hier de Patrick Cohen dans le 7-9 de France Inter, elle n'a pas eu une parole, pas une seule, pour le patrimoine ou les musées. Certes, elle n'a pas été interrogée à ce sujet, mais en une demi-heure, elle avait parfaitement le temps et l'opportunité, sinon le devoir, d'en dire un mot. Elle vient par ailleurs de confirmer à son poste le précédent directeur de cabinet, nommé par Aurélie Filippetti, Martin Adjari, celui qui avait remplacé Laurence Angèle à son départ en mai. Or, c'est bien le cabinet qui fait la politique, surtout lorsque le ministre n'est pas spécialiste de ces domaines. Mais attendons ses premières décisions. Nous avions, lorsqu'Aurélie Filippetti avait été reconduite à son poste par Manuel Valls, récapitulé les dossiers brûlants du moment et les décisions qu'elle aurait dû prendre pour redorer son blason. Ils sont toujours d'actualité, notamment celui des budgets d'acquisition des musées ou le coup de frein nécessaire au vandalisme municipal à Paris, confirmé récemment par la volonté d'Anne Hidalgo de mettre la commission du Vieux-Paris à sa botte. Si la loi patrimoine semble désormais bien compromise, ce que nous ne regretterons pas tant cette remise à plat de la législation était porteuse de menaces, celle-ci comportait tout de même des dispositions que l'on attend depuis longtemps, sur le classement d'ensembles mobiliers et sur le classement in situ de certains meubles, ou encore sur la protection des domaines nationaux contre les démantèlements. On pourrait citer encore beaucoup d'autres dossiers, dont certains plus ponctuels, mais brûlants, comme le devenir de l'escalier de la BNF que Mitterrand d'abord puis Filippetti ont abandonné en race campagne, ou, encore et toujours, les serres d'Auteuil, pour lesquelles on attend la conclusion de l'enquête publique. Bref, on ne tardera pas à savoir ce qu'il faut penser de Flore Pellerin, ministre de la Culture. Mais ne devrait-on pas se poser la question, une interrogation qui revient régulièrement sur le devant de la scène, de l'utilité de ce ministère? Si je crois pour ma part qu'il est absolument nécessaire qu'un ministre soit en charge d'un domaine aussi important pour la France que son patrimoine historique, il n'y a finalement aucun lien ou presque entre celui-ci et la communication. Ne faudrait-il pas plutôt envisager un ministre du patrimoine qui serait en charge des musées, des monuments historiques, des archives et des bibliothèques? Cela aurait au moins le mérite d'une certaine cohérence et obligerait le ministre en question, même s'il n'est pas spécialiste, à être concerné par ces questions. Car clairement, si l'on prend par exemple la dernière titulaire du poste, on était face à une chaise vide. Je me tourne maintenant vers Louis-Antoine Pratt. Et avant de parler de votre collection et de votre activité d'historien de l'art, j'aimerais savoir comment vous êtes devenu historien de l'art, comment vous êtes intéressé à l'histoire de l'art, quelle est votre formation?
Je vais vous répondre, mais avant je voudrais faire une incidente. Je viens d'y penser. Quand j'étais jeune, j'écrivais des pièces pour la radio. J'en ai écrit 4 et la dernière s'appelait « Pourquoi Fleur pleurait-elle ?»
C'est drôle. Vous allez nous la communiquer, on lira à l'antenne.
C'est drôle. Voilà. Comment je suis devenu collectionneur? Eh bien, en fait, après avoir suivi les cours de l'école du Louvre, et puis, je dirais, un peu par atavisme familial. J'ai très peu connu mon père, qui est mort quand j'avais même pas 7 ans, et je l'ai plutôt connu et aimé par les choses qu'il a laissées. Il avait deux grandes maisons, une à la campagne et une à Nice, qui étaient remplies d'objets d'art qu'il avait achetés tout au long de sa vie, qui étaient aussi bien des tableaux, des meubles, des objets. La plupart de ces objets et de ces meubles n'étaient pas de grande qualité. Il y en avait quelques-uns très beaux et puis il y en avait beaucoup de assez médiocres. Et surtout, c'était des objets qui, l'ensemble ne reflétait pas un goût particulier. C'était plutôt, je crois, la volonté de s'entourer de choses, mais sans direction précise. Et petit à petit, pour comprendre cette réunion d'objets, il m'a semblé que c'était intéressant de faire des études d'art. Et donc, ça m'est venu assez tard, parce que j'ai commencé par faire des études de lettres, là où j'ai rencontré mon épouse d'ailleurs, et en Hippocagne, en chanson de Sailly. Et puis ensuite, j'ai fait un diplôme de Sciences Po, bon, qui n'était pas vraiment la chose qui me plaisait, mais enfin, à l'époque, ça semblait utile de faire ça. Et finalement, c'est après notre mariage que nous nous sommes inscrits à l'école du Louvre en 1970. Et nous avons très vite, vous savez comment c'est, l'école du Louvre, il y a un tronc commun, l'histoire générale de l'art, et puis il y a une cour de spécialité. Alors la première année, on suivait deux ou trois cours de spécialité pour choisir ce qui vous intéressait le plus. Et le cours sur le dessin, je dois dire, m'a particulièrement séduit, parce que j'arrivais au début d'un cycle, qui était un cycle sur l'art nordique d'ailleurs, sur les dessins allemands, flamands et hollandais. Mais il y avait le fait de voir ces dessins projetés en énorme sur un mur dans la vieille salle Courageau, c'était pas les belles salles de l'école de Louvre.
Je l'ai connu.
Qu'on connaît aujourd'hui, vous l'avez connu aussi, hein, avec les vieux épidiascopes où on passait des photos. Mais c'était fantastique de voir ces dessins agrandis. Et en même temps, la salle de consultation, la magnifique salle qu'on connaît maintenant, que tous les amateurs de dessins connaissent, qui est dans l'aile de Flore, venait d'ouvrir. Elle a ouvert cette année-là. Et donc, nous avons été les premiers étudiants à pratiquer cette salle, qui est une salle tellement belle, tellement sublime. Vous savez que c'est un ancien escalier de d'honneur qui introduisait les ambassadeurs vers les Tuileries et qui a été parqueté pour créer cette salle. Et la salle était tellement belle, il en émanait une telle ambiance à la fois studieuse et majestueux, je dois dire, que je me suis dit que j'aimerais bien travailler là. Et je ne savais pas encore, évidemment, que j'y travaillerais les 40 années suivantes.
Qui était le professeur qui vous a donné le
cours ? C'était Maurice Cérulla. C'était Maurice Cérulla, qui était un homme charmant. J'ai beaucoup aimé, je m'entendais très bien avec lui. C'est lui qui m'a nommé chargé de mission, d'ailleurs, juste après que j'ai été diplômé. Et avec lui que j'ai participé à ses premières aux premières expositions. Il m'a fait participer, qui étaient essentiellement des expositions au musée de la Croix.
Donc le dessin, vous avez expliqué pourquoi, et pourquoi seulement le dessin français, pas le dessin italien,
c'est venu,
par exemple.
C'est venu
ou nordique, puisque, vous disiez
puisque
que...
c'est ce que j'avais étudié. Et le dessin français, quand on commence à collectionner, on s'aperçoit évidemment qu'à Paris, on trouve plus de dessins français que de dessins étrangers. Les livres étaient très très rares sur le dessin français à l'époque. Il y avait beaucoup plus de choses sur les dessins italiens. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais le dessin français, il y avait une espèce de continuité depuis les origines, depuis le début du 17e, enfin... Je me suis moins intéressé au 16e, mais depuis le début du 16e jusqu'à la fin du 19e, il y avait une espèce de ligne mélodique de continuité, comme ça, qui était parfaite et sublime à suivre. Donc, ça m'a particulièrement plu. Au début, j'avais collectionné aussi, j'avais acheté des dessins italiens et nordiques, mais assez peu, une soixantaine. Et puis, en 84, j'ai décidé de ne plus m'intéresser qu'aux dessins français. Et d'ailleurs, je n'ai jamais écrit que sur les dessins français, que sur les dessinateurs français. Donc, en 84, j'ai vendu la soixantaine de dessins étrangers, entre guillemets, que j'avais, et je me suis concentré sur le dessin français, sur trois siècles, entre 1600 et 1900.
Donc, il y a maintenant 30 ans.
Il y a 30 ans, voilà.
Et quel est le premier dessin français que vous avez acheté ?
Je ne sais pas si on peut dire...
Le premier dessin que vous avez acheté,
C'était un dessin... français entre guillemets, c'était un dessin de Max Ernst. Et je l'avais acheté parce que mon épouse est la petite-fille de Philippe Soupeau, qui a écrit avec André Breton Les Champs Magnétiques, et Philippe Soupeau que j'ai bien connu d'ailleurs, et ce dessin de Max Ernst représentait en profil perdu André Breton. Donc c'était presque une affaire familiale, en plus il avait appartenu à Valentine Hugo, et donc c'était presque une affaire familiale d'acheter ce dessin que je trouvais très joli, très réaliste. Maxence a fait d'autres portraits de Breton, dont celui où Breton porte un bandage et qui était beaucoup plus surréaliste d'esprit. Celui-là était très classique d'esprit, et voilà, c'est un dessin qui me plaisait.
Est-ce que vous l'avez toujours ?
Non, il est reproduit dans les divers catalogues de la collection, parce que Pierre Rosenberg l'a montré dans la préface qu'il a écrite de ses catalogues, mais non, je l'ai plus. J'ai vendu tous les dessins, j'avais quelques dessins 20e, et je les ai tous vendus. On parlera peut-être pour acheter un dessin de Poussin absolument essentiel, j'ai délaissé le 20e. De toute façon, j'ai jamais écrit sur le 20e, donc ça avait un sens de s'intéresser.
Alors, j'ai entre les mains, donc je crois que c'est le premier catalogue de votre collection, voilà. De Main de Maître, 3 siècles de dessin français dans la question Pratt. Pierre Rosenberg l'a écrit, et donc c'est
90.
90, l'exposition qui était au Louvre.
Non, elle n'a jamais été au Louvre. Elle a été publiée en français par la RMS, qui était donc, très, très, très gentille.
J'ai repris ça dans ma bibliothèque.
Elle a fait une tournée aux États-Unis.
Alors, je dois avoir quelque part dans ma bibliothèque également le catalogue du Louvre. Voilà. Celui-ci, c'est à Ottawa, effectivement.
Voilà, c'était Ottawa. Enfin, c'était New York, Fort Worth, Pittsburgh et Ottawa.
Donc, dans ces dessins, alors, votre collection, comme vous l'avez dit, vous vendez de temps en temps, ne serait-ce que pour pouvoir racheter, ou peut-être parce qu'il y a des œuvres qui vous plaisent moins. Je crois que vous avez, alors ça n'est pas du tout une, comment dire, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est vrai que vous vous centrez sur les très très belles feuilles, mais vous essayez quand même, vous avez peu de petits maîtres finalement, vous avez surtout des grands maîtres. Est-ce que je me trompe ?
C'est-à-dire que j'ai essayé. Cette notion de petit maître, et vous savez comme moi, elle n'est pas juste, cette notion.
Je suis le premier à le dire,
bien sûr, ça ne veut rien dire.
On peut avoir de très belles feuilles de petit
maître. Mais j'ai essayé d'avoir pour les maîtres très connus, comme pour les maîtres moins connus, ou moins, ou des maîtres qui séduisent moins le marché, des feuilles essentielles. Donc, j'ai gardé ce qui me paraissait très beau dans les maîtres secondaires, qui illustraient parfaitement leur art, à leur, j'espère, à leur acmé. Voilà.
D'accord. Donc c'est vraiment la belle feuille qui vous
Voilà,
vous
c'est ça. C'est la belle feuille, qu'elle soit de Fromentin ou de Degas.
Et dans le catalogue dont je parlais, Pierre Rosenberg fait une préface qu'il vous consacre. Donc, et Pierre Rosenberg aime bien effectivement faire des portraits de collectionneurs. Il y a des questions de toutes les espèces, comme il le dit souvent. Donc vous êtes de l'espèce qui expose ses dessins, qui ne les conserve pas dans les cartons.
Oui, ils sont accrochés. Tout est accroché au mur. Il y a trois pièces dans mon appartement. Et il y a une pièce qui est consacrée au 19e, une autre plus petite au 17e et une autre au 18e. Voilà.
Et donc, ce sont des dessins que vous montrez et que vous montrez finalement largement puisque vous...
Vous les prêtez. Là, en ce moment, j'ai deux dessins de Carpeau prêtés au Musée d'Orsay, à la rétrospective Carpeau. Dans quelques jours, un autre dessin, un portrait de Madame Cézanne par Cézanne partira, parce qu'il y a une exposition qui se fait au Métropolitain sur Madame Cézanne. Vous savez qu'il y a un livre qui est paru récemment qui s'appelle The Over Cézanne, qui est uniquement sur la relation entre Cézanne et Hortense Fiquet, sa femme, qui lui a servi, on le sait, de modèle extrêmement placide et extrêmement soumis.
Et donc, vous êtes un collectionneur qui montrait vos œuvres, mm-hmm. qui les ouvrait largement aux historiens de l'art et aux spécialistes.
Bien sûr, oui.
Qui les prêtez, et également vous achetez en général un peu partout. En fait, vous n'achetez pas, il y a des collectionneurs comme des Pierre Rosenberg qui achètent uniquement en vente publique, d'autres qui achètent uniquement chez les marchands,
c'est vraiment l'occasion qui se présente. Les ventes publiques, évidemment, on sait les choses. Dans le commerce d'art, finalement, j'ai essayé de faire le compte de ce que j'avais gardé, qui venait soit du commerce d'art, soit des ventes publiques. Et finalement, beaucoup des choses que j'ai vendues, que je trouvais pas suffisantes, venaient plutôt des ventes publiques. Vous savez comme moi que, évidemment, la façon d'acheter n'est pas du tout la même. En vente publique, vous fixez une limite, et puis souvent, vous la dépassez. Quand vous voyez une offre chez un marchand, le jeu, évidemment, le prix est exprimé, et le jeu est de le faire baisser.
De faire baisser, oui, c'est vrai, c'est un peu l'inverse.
C'est un peu l'inverse, voilà.
Et dans ces dessins, dans les dessins que vous avez possédés, donc je pense là vous allez me répondre à un dessin que vous possédez toujours. Quel est celui que vous aimez le mieux finalement, ou les deux ou trois dessins que vous préférez dans les dessins que vous
Mais
avez
Mais c'est toujours le fameux problème qu'on se dit, s'il y a le feu, qu'est-ce que j'emporte ?
Voilà. Hein, voilà. Si j'espère qu'il n'y aura pas le feu chez vous, ça serait une grosse perte.
J'aime beaucoup le. si vous voulez, certains dessins me sont particulièrement chers parce qu'ils expriment pour moi la quintessence du dessin. Et le dessin qui a été reproduit en couverture du premier catalogue, l'étude de Degas pour la famille Bellelli, évidemment, me paraît l'un des dessins
les plus. Je la mettrai, si vous me permettez, dans la page de Contact
si
à l'émission.
Voulez, pour que... c'est un dessin que j'ai acheté à la vente Nebve Degas en 1976, qui était au fond une espèce de cinquième vente ou de sixième vente, puisqu'il y avait eu la vente de Mademoiselle Fèvre dans les années 30 ou 40, je crois, qui était la nièce de Degas et qui faisait suite aux quatre grandes ventes Degas de 1918-19. Mais c'est un dessin qui venait des héritiers, des neveux de Degas, qui s'appelait Nebve. Donc ils ont tous cette marque Nebve Degas. Et je me souviens, cette vente, j'étais assis entre Pierre Rosenberg et Jacques Foucard, et on s'extasiait parce qu'il y avait 150 dessins de Degas. Et je me souviens de l'eau de dessins de Degas, 3 ou 4 copies d'après l'Antique ou les Maîtres, qui étaient adjugées 2 ou 3 000 francs. Enfin, ça semble aujourd'hui, ça semble merveilleux.
Je me rappelle moi-même avoir, je sais pas si vous vous rappelez peut-être de Patrick Roger.
Oui, bien sûr, j'ai bien aimé Patrick.
Roger
Binet.
Roger Binet, tout à fait, qui était un marchand formidable qui avait travaillé. En face de l'oratoire, absolument. Et qui avait, et je me rappelle encore, parce que ça, je le regrette, il avait un dessin de Degas qui représentait le diable, et que ça valait, effectivement, à l'époque, ça valait rien du tout.
Mais là, qu'il avait acheté à la vente.
En tant que collectionneur de dessins religieux que je suis, j'aurais bien aimé avoir le diable, et finalement, je ne l'ai pas acheté. Bêtement.
Mais c'était une vente merveilleuse, et je m'étais fixé deux buts dans cette vente. C'était la tête de la sœur, un dessin sur papier rose, et puis la petite fille de la famille Bellelli. C'était un dessin, pour moi, en qualité, qui rappelait un les plus beaux dessins de Degas sur ces mêmes papiers colorés. Là, c'est la petite fille Bellelli est sur papier vert, qui sont évidemment les dessins pour la Sémiramis, qui sont au Louvre, au Louvre Orsay maintenant, et je trouvais que ce dessin était de cette qualité-là. C'était à la fois, ça exprimait la filiation de Degas vis-à-vis des maîtres anciens, l'usage de la carta tinta, et puis cette figure qui apparaît comme ça, presque dans l'eau du papier préparé, c'était une figure sublime. En plus, évidemment, en tant que collectionneur de dessins, j'ai une certaine passion pour trouver des études préparatoires à des grands tableaux.
Alors, on parle de votre dessin préféré, et maintenant, les dessins que vous avez achetés récemment, alors, je vous ai vu récemment, acheté par hasard, j'étais dans la salle à Drouot, c'était au moment du salon du dessin, je crois, il y avait un très joli dessin de la scène de Delacroix. Et vous l'avez acquis.
Voilà, parce que c'est notre avant-dernier achat. Notre dernier achat, c'est un dessin de Victor Hugo pour la Tour des Rats, la première version de la Tour des Rats que nous avons acheté un peu plus tard. Mais ce dessin-là était très important pour moi, cette scène de Delacroix, parce que Delacroix, pendant l'hiver 62, il est proche de sa fin, il est malade, et en quelques jours, il dessine une dizaine de dessins à la plume, très rembrandtesque, dans une façon très très griffée, presque des mannequins. Ils ont pas d'expression, des figures, et c'est tous des dessins religieux qui évoquent des scènes de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et curieusement, tous ils les datent. Ils sont tous sur le même papier, derrière une petite feuille de papier assez fragile. Et curieusement, ils les datent du 18 février, du 24 janvier 62. Et ces dessins, je les ai beaucoup aimés. Quand Vincent Pomarel a fait l'exposition de la Croix Tardif, il m'a demandé de faire un texte sur ces dessins dans le catalogue, et j'ai reproduit à ce moment-là tous les dessins de cette série. Il y en a 6 dans des musées, et j'ai pu trouver les 4 autres au fil des années. Et là, il en réapparaissait un. Donc, il est estimé pas cher du tout.
Non, pas cher du tout. C'était même absurde.
Enfin, et c'était absurde. Et ce qui m'amusait, c'est qu'il y avait quelqu'un au téléphone qui l'a poussé longuement, par l'intermédiaire de l'expert. Après, j'ai demandé à l'expert, est-ce que vous pouvez me dire qui c'est? Il m'a dit, je ne peux pas. Mais finalement, ça s'est arrêté, et il y a eu encore une enchère faite par un monsieur devant moi, et ce monsieur, je le connaissais, c'est un de mes auditeurs à l'école du Louvre, très sympathique d'ailleurs, un très très bon collectionneur, monsieur Gouiss, et il a mis une enchère, voilà. Mais je lui ai été reconnaissant de montrer qu'il aimait aussi ce dessin, puis il s'est arrêté. Voilà.
Alors, ça me vient comme ça à l'idée, parce que j'ai le dessin en tête, mais peut-être pas assez bien. Vous parliez des dessins assez, de la manière dont sont faits des dessins, est-ce qu'ils seront pas finalement, en plus d'un sujet de l'Ancien Testament, etc., est-ce que quelque part ça ressemble, enfin, du moins, pas de l'Ancien Testament, c'est la scène, mais beaucoup de sujets de l'Ancien Testament.
Il y en a d'autres de l'Ancien Testament.
Est-ce qu'il n'y a pas une finalement une dans ma enfin j'ai l'impression qu'il ressemble un peu à des poussins finalement quelque part un petit peu
oui, rapport avec poussins. Oui, surtout celui de celui-ci, la scène voilà, parce que celui de la scène, il y a en plus de la plume, il y a un peu de la vie. Voilà. Évidemment voilà. La plume en creux-brune avec le lavis, ça fonctionne comme un poussin. Donc, et ce caractère très schématique des figures, on le retrouve évidemment.
Donc évidemment de la croix poussin parce que vous avez quelques artistes, on en reparlera tout à l'heure, des artistes favoris, de la croix et poussin.
Voilà, il y avait une filiation.
À dernières acquisitions, j'avais une autre chose à vous demander sur votre collection, mais elle m'échappe, donc ce n'est pas grave. Je vais faire les brèves.
Il y avait, je peux dire aussi que...
Si, voilà, ça m'est revenu, excusez-moi. Oui, allez-y.
Nous avons acheté cette année un troisième dessin. Alors là, c'est vraiment les dessins, ça prouve qu'il faut être patient, parce que c'est un dessin que j'aimais énormément et que j'avais reproduit dans mon livre sur le 19e français. C'était un dessin de Rodin que... J'avais vu passer en vente il y a des années aux États-Unis, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas l'acheter. Et finalement, il est reparu dans la vente Crugier, et j'ai pu l'acheter dans la vente Crugier, un dessin représentant la Médée. Et depuis, j'ai vu les spécialistes de Rodin qui m'ont dit « Ah, c'est un dessin que le musée Rodin aurait voulu acheter s'il n'avait pas acheté à ce moment-là un autre dessin en même temps. » Mais c'était un dessin vraiment qui manque au musée Rodin.
Vous l'avez acheté dans la vente Crugier, ça fait des prix incroyables. Ce prix a été raisonnable, après. Enfin, je ne sais pas si vous le demandez.
Non, c'était pas raisonnable, mais en plus, parce que il y avait des taxes parce que les œuvres venaient de Suisse, donc il y avait des taxes supplémentaires, et puis il y avait le passage de la livre à l'euro. Enfin, ça a fait une somme à laquelle je ne m'attendais pas. Mais bon, voilà, il faut dire que quand on a une collection, parfois on paye un peu cher, et parfois il y a des choses qu'on paye moins cher. Donc,
ça s'équilibre.
Ça joue comme une compensation.
Alors, vous parliez tout à l'heure de votre auditeur à l'école du Louvre qui voulait acheter, donc qui collectionnait aussi. Est-ce que vous avez justement beaucoup de concurrents dans le dessin français en France, mais également à l'étranger? Alors, à l'étranger, on pense aussi à Horvitz.
C'est malheureusement à l'étranger. Giffrey Horvitz, que je connais bien, qui est un ami, n'est pas le plus embêtant des collectionnaires, parce que il s'arrête à Boston, il ne paye pas des prix faramineux.
Je pense que c'est un collectionneur à New York, mais
Par contre, les deux collectionneurs de New York, c'est Ronald Loder et Léon Black, évidemment,
voilà, Léon Black,
qui ont des fortunes qui n'ont aucun rapport avec la mienne. Et donc, on sait que quand Ronald Loder, ou surtout Léon Black, qui est très actif sur le marché maintenant, on sait que quand Léon Black veut un dessin, ça n'est même pas la peine d'essayer de l'acheter.
Oui, mais pas uniquement sur le dessin français.
Non, mais il achète toutes les choses de très belle qualité. Ouais, ouais. J'ai été chez lui trois fois. Chaque fois, on en sort presque les larmes aux yeux.
Par exemple, qui a acheté plusieurs dessins aux ventes à Londres récemment.
Bien sûr, il a acheté tous les grands dessins de Léonard, de Michel-Ange qui sont passés ces dernières années.
Et les musées, ce sont des concurrents également pour vous? Comment ça se
passe?
Non,
les musées ne sont pas des concurrents parce que, comme je fais partie de... J'ai la chance, là, les musées me traitent bien et m'ont mis dans toutes leurs commissions d'achat. J'ai la chance de savoir à l'avance ce qu'ils achètent. Et évidemment, je me retire quand un musée veut acheter quelque chose.
Et dernière chose sur votre collection, vous avez donné aussi au Louvre plusieurs œuvres.
Voilà, au moment de l'exposition, au Louvre.
Et même récemment, un dessin de Paul Laroche.
Oui, récemment. C'était pas un très beau cadeau, mais enfin, c'était
un... C'est toujours un cadeau.
C'était un petit dessin. Mais les beaux cadeaux étaient en 95. Quand notre collection a été exposée au Louvre, c'était la première collection privée exposée au Louvre. Il n'y en avait pas eu auparavant. Donc, c'était un événement assez considérable pour nous. Et à ce moment-là, nous avons décidé de donner un certain nombre de dessins sous réserve d'usufruit. Nous avions donné beaucoup de choses avant déjà, mais des dessins moins importants. Et là, nous avons donné sous réserve d'usufruit une douzaine de dessins tout à fait importants, mais avec lesquels nous vivons encore jusqu'à notre disparition.
Bien, vous avez des dessins du Louvre chez vous, ce qui est toujours agréable.
Voilà, avec la marque du Louvre.
Les nouvelles très très brèves. La semaine dernière, donc, lors de mes vacances, dont je parlais tout à l'heure, j'ai visité l'abbaye de Fontevraud, sans doute un des monuments les plus connus de France, dans sa catégorie en tout cas. Je consacrerai bientôt un article à celui-ci, car le traitement qu'il subit est effrayant, et constitue presque une caricature des restaurations, entre guillemets, je mets le mot entre guillemets, que certains monuments historiques subissent de la part d'une administration qui est censée les protéger. Les responsables sont à la fois le ministère de la Culture et l'architecte en chef, qui est responsable de ce monument. La plupart des bâtiments déjà restaurés semblent neufs, sortis de l'imagination d'une espèce de Ricardo Bofill de la restauration. Les photos que nous publierons sont assez accablantes. On annonce pour bientôt la restauration des cuisines, vous savez, ce très beau, bel édifice avec plein de petites tourelles, etc. Il faut absolument sauver ces cuisines de cette restauration et de ces restaurations absolument invraisemblables et empêcher ce désastre. On frémit lorsqu'on pense qu'en plus tout cela est fait avec nos impôts dans un budget qui est en chute libre. C'est assez consternant. En revanche, la plupart des châteaux de la Loire que j'ai pu également visiter, que je ne connaissais pas pour la plupart d'ailleurs, sont plutôt en bon état et bien restaurés. Et beaucoup, tels Chenonceau et Cheverny, sont privés, mais j'accorderai une mention spéciale au Centre des Monuments Nationaux. Le château d'Angers ainsi que celui d'Azarido, qui lui sont confiés, sont bien restaurés, sont plutôt bien tenus. Le personnel est très agréable. Enfin, c'est vraiment, on a plaisir de temps en temps à dire du bien d'institutions publiques, comme effectivement le Centre des Monuments Nationaux, qui, dans ce cas-là, présente et conserve des châteaux de manière tout à fait satisfaisante. J'ai pu également passer à Ancenis. Ancenis, on se rappelle, est un château médiéval qui n'est pas exceptionnel, mais enfin qui est quand même une belle forteresse, aux côtés d'un logis du XVIe siècle qui était en décrépitude absolue, pour voir les résultats de l'abandon de Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand avait été prévenu qu'on construisait sur ce château médiéval un immeuble moderne. Je ferai également un article à ce sujet. Le bâtiment est évidemment, comme c'était prévu, complètement nul. Et en plus, on restaure le bâtiment du 16e à côté. Et ce que j'ai vu n'est pas vraiment formidable. Nous avions parlé dans notre première émission, le 9 janvier dernier, du prieuré des Moulineaux, une chapelle médiévale en pleine forêt, entre Poigny-la-Forêt, et Hermeray dans les Yvelines. Cette chapelle est en partie en ruine, et son propriétaire refusait tous travaux. Grâce à l'association Sauver les Moulineaux, mais aussi, il faut le souligner, au maire, un élu de Poigny-la-Forêt, Marie Fuchs, qui s'est beaucoup impliqué dans cette affaire, la chapelle a pu être inscrite monument historique. Cela ne veut cependant pas dire qu'elle sera sauvée. La mairie aimerait l'acheter, mais le propriétaire ne veut pas vendre, alors qu'il n'en fait absolument rien. Nous essaierons, comme nous a invité Olivier Chagot, le président de l'association, nous essaierons de nous rendre sur place pour écrire un article. Enfin, le Centre Pompidou, vous l'avez lu chez mes confrères, a donc signé un accord de 5 ans avec Malaga pour ouvrir une antenne temporaire en 2015, où seront accrochés pendant deux ans renouvelables, 80 heures, avec à la clé quelques millions d'euros pour le musée. On est là pleinement dans la location d'œuvres, sans aucun objectif scientifique, mais les musées français nous ont depuis longtemps habitués à cela. C'est tout de même moins grave pour Beaubourg, car on sait que ses collections sont réellement pléthoriques. Mais c'est une fois de plus un très mauvais signe envoyé aux autres musées du monde entier. D'autant que le président du centre, Alain Seban, veut multiplier ce type d'antenne. Les collections ne sont pas faites pour être louées, on ne le répétera jamais assez, elles doivent être prêtées. Que se passera-t-il lorsqu'un musée voudra emprunter une œuvre louée pendant 2 ans à Malaga? Le choix de cette ville est d'autant plus scandaleux qu'elle dépense beaucoup d'argent à louer des collections, Beaubourg, bientôt l'Ermitage, la collection de Carmen Thyssen, pendant que son propre musée des Beaux-Arts, avec une grande collection de maîtres anciens, est en caisse depuis 17 ans. Il rouvrira dans un autre bâtiment en 2015, fin 2015, pardon, mais le musée des Beaux-Arts sera regroupé avec le musée archéologique et ne disposera que d'un étage. Je me retourne à nouveau vers Louis-Antoine Prat pour parler maintenant de votre action au Louvre, enfin de votre... vous êtes chargé de mission en fait, expliquez-nous qu'est-ce que c'est qu'un chargé de mission au département des dessins.
Il n'y a pas de définition, on a une carte, on a une appellation, on est renommé par le président directeur du Louvre. Il y en a quelques-uns dans divers départements. Disons que ce sont des collaborateurs scientifiques qui ne sont pas fonctionnaires et qui prêtent leur activité pour des commissariats quand on veut bien leur en confier, pour des recherches, pour des inventaires qu'ils publient ou qu'ils ne publient pas, et qui travaillent avec les conservateurs.
Est-ce que vous participez par exemple aux acquisitions, au choix des acquisitions?
Oui, alors ça c'est pas du tout en tant que chargé de mission, c'est en tant que collectionneur. On a eu la gentillesse de me nommer au comité d'acquisition d'Orsay.
Alors oui, évidemment, c'est pas en tant que...
On a eu aussi la gentillesse de me nommer au conseil artistique des musées nationaux, qui est l'échelon au-dessus, où il y a quelques collectionneurs et beaucoup de directeurs de musées. Et puis, au Louvre, c'est Marc Fulmarulli qui devrait y siéger en tant que président des Amis du Louvre, mais comme il n'a pas le temps, il m'a demandé de siéger à sa place dans la commission d'acquisition du Louvre, donc où je suis là déjà depuis pas mal d'années aussi.
C'est ça, donc tout reviendra effectivement sur les Amis du Louvre, mais centrons-nous sur votre collaboration en tant que chargé de mission. Donc vous préparez les expositions et vous faites des inventaires.
Voilà, et puis en ce moment, surtout depuis quelques années, évidemment, le département doit avoir un représentant à l'école du Louvre pour l'enseignement, et c'est une tâche que j'assume depuis maintenant 7 ans.
D'accord. Alors justement, l'école du Louvre, vous avez un cours donc de cours organique.
Voilà, le cours organique d'histoire du dessin que j'assume donc depuis 2007. Donc, et avec grand plaisir, Philippe Duret, qui est directeur de l'école et qui est un vieil ami, m'avait demandé d'envisager ce travail. J'avoue que j'avais été un peu effrayé à l'époque, et puis ça m'a séduit infiniment. Parce que le contact avec de jeunes esprits, ce rôle de passeur des connaissances, en plus dans un domaine où on rencontre beaucoup les étudiants, puisque, comme vous le savez, les dessins ne sont pas exposés en permanence. Donc, nous faisons des séminaires dans cette magnifique salle dont j'ai parlé tout à l'heure, où nous leur montrons les dessins et où nous en discutons. Et j'ai le plaisir de voir que certains des élèves deviennent des spécialistes petit à petit, publient des mémoires très brillants, bientôt des thèses, et certains deviennent...
Donnez des noms de vos élèves, quelques-uns de vos élèves.
Par exemple, Lucille Coe, ça fait un très beau mémoire sur l'agneau. Là, je viens de lire le mémoire d'une autre de mes élèves, Camille Bruno, sur les dessins du sculpteur André Lebrun. J'en ai une autre, Marion Abeille, qui a travaillé sur les têtes de Greuze. Enfin non, j'ai plusieurs élèves qui travaillent très très bien et qui, je pense, iront loin dans le monde de l'histoire de l'art.
Et alors, ces cours donc de dessin donnent lieu, alors, on va en parler maintenant, on devait en parler tout à l'heure, mais c'est pas grave, on reviendra sur d'autres sujets tout à l'heure, c'est pas grave. Ah, donc là, j'ai encore un livre, donc un énorme livre, dont j'ai parlé d'ailleurs récemment,
oui.
J'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit. Donc, le dessin français au XVIIe siècle, qui est la suite du dessin. Alors, ça ne me paraît pas, parce que finalement, c'est la suite du dessin français au XIXe siècle.
Voilà,
alors,
ces cours ont été construits selon une sinusoïde bizarre, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas faire des livres. Donc, j'ai fait mes cours sur le XIXe pendant 3 ans, et puis Dominique Cordelier et Karel Van Teuil, qui dirigeaient le département à l'époque, m'ont dit, écoutez, il faudrait en faire un livre, ça sera utile pour les étudiants. Et donc, finalement, grâce à Violaine Bouvet-Lancel, et puis grâce aussi à la volonté d'Henri Loiret, qui dirigeait le Louvre à l'époque, et donc qui supervisait les éditions...
Violaine Bouvet-Lancel, qui s'occupe des éditions du Louvre,
rappelons-le. Voilà, qui dirige les éditions du Louvre. Et en même temps, ils ont décidé de faire cette publication. Alors, le 19e était aussi coproduit avec Orsay, puisqu'il y avait toute une partie qui dépendait d'Orsay. Et il y a eu en plus un éditeur privé merveilleux qui s'appelle Somogy, qui est dirigé par Nicolas Neumann, un monsieur absolument exquis qui est passionné d'art. Et la conjonction de ces 3 éditeurs a fait qu'on a publié ce livre qui au fond reprend les cours, reprend les 3 années de cours, avec une illustration vraiment très bien choisie, un peu réduite évidemment par rapport à ce que je montre au cours, puisqu'au cours je montre par exemple tous les tableaux correspondant à des dessins. Dans le livre, il n'y a que des photos de dessins. Il n'y a pas une seule photo de tableau. Je suis parti de l'idée que quand on parlait des dessins, par exemple, de Géricault pour le radeau de la Méduse, les gens connaissaient le radeau de la Méduse. Voilà. Donc, c'est vraiment un livre sur le dessin comme œuvre, et j'espère que cette synthèse est utile pour les étudiants, et bon, ils s'en serviront un certain temps, j'espère.
En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire, et je l'ai écrit d'ailleurs dans cet article. Quand vous faites ce type de livre, qui finalement c'est une somme, c'est vraiment... Ça n'existait pas, en fait, il n'y avait pas d'histoire du dessin français.
Non, il n'y en avait pas. Il y a une petite synthèse de Pierre Lavallée, publiée chez Larousse en 1948, mais qui tient en... C'est un tout petit livre qui tient en 100 pages.
Alors, je suppose qu'il y a des choix à faire.
Oui, alors, pour le 19e, j'ai fait le choix de ne parler... Je dirais pas que des grands maîtres, il y avait beaucoup d'artistes secondaires, mais de pas parler de tout le monde.
Alors justement, c'est une discussion que nous avions eue.
Il aurait fallu parler de tout le monde, le livre aurait fait 6 années de cours, je crois.
Alors,
on m'avait reproché de ne pas parler d'Abel de Pujol.
Par exemple.
Et je me suis défendu en disant que, au fond, j'avais essayé de traiter surtout les gens, les artistes qui avaient apporté quelque chose à l'art du dessin, et au fond, ceux qui avaient été formés par l'école et qui... Bon, j'aurais pu. Abel de Pujol, c'était un peu comme Blondel ou d'autres, des gens que j'ai négligés un peu à tort. Alors, je ne l'ai pas fait pour le 17e. Le 17e, j'ai vraiment
parlé. Justement, on a l'impression
parlé
que
de tout le monde, mais il y avait beaucoup moins de gens.
Il y avait moins de gens.
Il y avait
vrai.
Moins de gens. Et là, pour le 18e, que j'enseigne maintenant depuis un an et qui devrait donner lieu, j'espère, à un troisième gros livre comme ça, je parle de tout le monde, ce qui m'oblige à d'abord étendre mes connaissances de façon drastique, et puis je ne sais pas combien de temps ça va durer. Là, j'attaque ma deuxième année d'enseignement sur le 18e, le cours de l'année est déjà entièrement écrit, les photos sont sélectionnées, il y a des gens merveilleux à la photothèque de l'école du Louvre, Madame Favet, qui m'aident justement à établir toutes ces photos, parce que je montre un nombre infini de photos, et puis ma collègue Laurence Sinares m'aide pour établir les PowerPoint qui montrent les tableaux en relation avec les dessins ou certains documents. Mais parler de tous les artistes, ça veut dire que ça va peut-être s'étendre sur 4 ans et pas sur 3, parce que ce qui est intéressant, c'est de montrer pas seulement de dire voilà, il y a un tel et puis il y a un tel, montrer les problèmes qu'il y a chez chaque artiste, les problèmes de faux, les mauvaises attributions qui sont légion, pourquoi est-ce que Poussin, on lui a donné plein de dessins qui ensuite sont été, on s'est aperçu que c'était soit des pastiches de Michel de Corneille, soit des dessins contemporains de Dufresnoy, de Charles Mélin, etc.
Pardon, j'ai la page Dufresnoy, effectivement. Voilà, tout les dessins ça, de Dufresnoy qui ressemblent beaucoup à Poussin.
Voilà, absolument. Alors tout ça, c'est les conquêtes de l'histoire de l'art, l'histoire de l'art du dessin depuis 30 ans. Quand j'ai commencé, moi, il n'y avait pratiquement pas de livres, il ne s'agit même pas de synthèse, il n'y avait pratiquement pas de livres sur le dessin français.
Il y avait très peu d'illustrations. Quand il y avait
Oui. Ça, c'était le rôle merveilleux de l'association Arthena, naturellement, dont je suis également...
Nous en parlons presque à chaque émission, parce que c'est vraiment, effectivement, on les soutient fortement.
Oui. L'un des fondateurs, et qui a publié toutes ces merveilleuses monographies sur les artistes français, 17e, 18e, 19e.
Alors, le prochain, c'est 18e, donc c'est ça, vous avez dit.
Le
vous
prochain, êtes dessus, voilà.
C'est pas être à quand?
Alors, il devrait paraître, cette année-là, maintenant j'ai commencé à écrire le cours de troisième année, c'est-à-dire que j'ai déjà le cours de toute l'année prochaine est écrit, mais je pense qu'il y a peut-être encore une autre année, donc disons qu'il paraîtra, je pense, en 2016.
Alors maintenant, les expositions que vous préparez pour le Louvre, la dernière c'était de la Roche, non, sur laquelle d'ailleurs je n'ai honteusement pas écrit.
Non, c'était une petite exposition.
Mais
c'était,
tout de même, bon,
c'était
voilà.
un petit dossier qu'on appelait avant 5 continents, maintenant ça a été repris par un autre éditeur, mais c'était ces petits dossiers qui sont uniquement sur les collections du Louvre.
Parce que de la Roche a un énorme fond en fait.
Oui, absolument, qui a été donné par les... par les héritiers. J'en ai fait trois. J'en ai fait un sur David avec Arlette Cirulla, j'en ai fait un sur Ingres, et puis j'ai fait celui-là, voilà, sur Delaroche, qui a donné lieu à une exposition. Et Henri Loiret a été assez merveilleux parce qu'il a eu une idée. Il a dit, je veux faire venir, parce que les dessins, bon, c'est assez amusant, mais ça n'attire pas les foules, et je veux faire venir le grand Paul Delaroche de Londres, la chère galerie de Londres, l'exécution de Lady Jane Grey. Il a réussi à le faire venir. Vous savez que c'est un tableau qu'ils n'aiment pas prêter, parce que d'une part, il est très fragile, d'autre part, il est très grand. C'était le milieu d'une salle à la chère galerie. Et il a fait venir ce tableau.
Puis c'est un tableau dont on dit qu'il est le plus regardé par les...
Et c'était fou. L'exposition était dans ces deux salles dites Molien, qui sont entre la Grande Galerie et les grandes salles Daru et Molien. Et les gens, en général, passent là parce qu'ils voient que c'est des expositions de dessin, ils ne s'arrêtent pas. Là, tout le monde s'arrêtait, tout le monde entrait dans l'exposition grâce au tableau d'un chef de galerie. Comme quoi, parfois, les tableaux attirent...
Amènent au dessin.
Conduisent les gens vers le dessin.
Et alors, les prochaines expositions, donc?
C'est-à-dire qu'on m'a demandé, j'ai deux petits projets là qui sont des projets où je participe seulement, on m'a demandé de participer à l'exposition sur Poussin, je crois que le titre n'est pas encore trouvé,
l'exposition qui aura lieu l'année prochaine, Poussin religieux,
Poussin et Dieu, ou Poussin et la religion, ou qui aura lieu au printemps prochain.
Les commissaires sont Nicolas
Milovanovic et Michael Zanto, l'élève très brillant élève de Schnapper, et ils m'ont demandé de faire les notices des dessins. Donc j'ai écrit une vingtaine de notices en essayant qu'elles soient un peu différentes de ce que j'avais écrit dans le corpus.
Parce qu'il faut rappeler qu'un de vos artistes préférés dont on parlait ou sur lequel vous avez travaillé, c'est Poussin, une nouvelle fois, on en avait parlé tout à l'heure, et vous avez fait le corpus avec Pierre Rosenberg.
Avec Pierre Rosenberg, absolument. Le corpus, le catalogue raisonné de Poussin, qui était un des projets qu'on a créé ensemble dans les années 89-90, où Pierre Rosenberg avait trouvé ce merveilleux éditeur financier qui maintenant est mort, qui avait une collection de dessins lui-même, qui s'appelait Leonardo Mondadori. Et Leonardo Mondadori a mis à notre service, il nous a payé des voyages, il nous a payé une secrétaire, il nous a payé des documentations qui nous ont permis de faire ces trois énormes corpus sur Poussin, sur Watteau et sur David. En fait, le projet, au départ, était de 5 corpus, puisqu'on devait aussi, ou 5 corpora, comme on devait faire aussi Ingres et Fragonard. Fragonard, j'ai jamais beaucoup travaillé sur lui, et Ingres, finalement, il y a eu une publication faite par le musée Ingres, et donc je me suis borné à être commissaire des dessins dans la grande exposition Ingres.
Dont vous mais même si c'est la publication de Georges Vigne sur les dessins du musée Ingres, mais il y a tous les dessins qui sont en dehors du musée Ingres, vous auriez plus.
Il y a à peu près 700 dessins, mais c'était, vous voyez, c'était très difficile parce que comment on y a pensé à un moment. Alors ça se serait appelé catalogue raisonné des dessins d'Ingres hors Louvre. D'autre part, les portraits étaient déjà publiés par Hans Neff en 5 tomes, Die Bildnis Zeichnungen von J.A.D. Ingres. Donc ça aurait été un ouvrage extraordinairement bâtard. Et finalement, bon voilà, ça s'est pas fait. Mais j'ai eu le plaisir d'écrire sur Ingres dans l'exposition de 2007, qui a été quand même une exposition magnifique.
la revue de presse.
Alors, une très rapide revue de presse, puisqu'on ne parlera que d'un article, et d'ailleurs sur un sujet qu'on a déjà abordé dans notre chronique, c'est Hervé Liffrand, dans le Canard enchaîné du 13 août 2014, a donc révélé ce que quelques personnes nous avaient déjà un petit peu dit, que Anne Hidalgo s'attaquait à la commission du Vieux-Paris. Et donc le titre de l'article de Hervé Liffrand, c'est « Anne Hidalgo bétonne la commission du Vieux-Paris ». Poursuivant son entreprise méthodique contre le patrimoine parisien, elle décide donc de limiter au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut enlever tous les membres de la commission du Vieux-Paris qui ne lui conviennent pas. Elle veut rendre secrète ses délibérations. Et troisièmement, elle veut choisir les dossiers qui lui seront soumis. Alors qu'il faut savoir que la commission du Vieux-Paris est une institution qui date de plus de 100 ans et qui ne donne que des avis. Ce sont uniquement des avis. Mais déjà, rien qu'un avis contraire à ce qu'elle veut faire, n'a pas l'air de plaire à Anne Hidalgo, qui est une grande démocrate, on le voit, et elle conçoit la concertation d'une manière un peu curieuse. Bien sûr, nous y reviendrons dans un article un peu plus longuement. Voilà, donc c'est toute la revue de presse. Il y aurait eu tellement de choses pendant les vacances, nous reviendrons sur un certain nombre de sujets.
Est-ce que les musées de la ville de Paris ont un peu d'argent
pour acheter? Les musées de la ville de Paris ont très peu d'argent. Oui. Je reviendrai d'ailleurs sur cela. Non, ils ont très peu d'argent. Donc il y a des très bons conservateurs. Une des seules choses qu'a bien fait la mairie de Paris, c'est qu'elle a nommé de bons conservateurs en général à la tête des musées de la ville de Paris, mais les pauvres, ils se battent avec très très peu d'argent. D'ailleurs, je n'ai plus le chiffre en tête, mais dans un article, j'avais comparé le budget d'acquisition de Montpellier et le budget d'acquisition de Paris. C'est grotesque, si vous voulez, c'est vraiment ridicule.
J'ai vu ça récemment, parce que justement, à propos de ce dessin de Victor Hugo que nous avons acheté, le conservateur de musée Victor Hugo, qui est quelqu'un de très brillant, M. Audinet, m'avait appelé en me disant « je voudrais acheter ce dessin, mais je n'aurai pas l'argent ». Et finalement, j'en ai parlé avec Pierre Jean-Gel, qui m'a dit, écoutez, il faut absolument sauver ce dessin, qui est donc la première version de la Tour des Rats, la version faite par Hugo pendant le voyage qui a donné le livre sur le Rhin en 1840. Et la grande version de la Tour des Rats, le dessin plus connu, est en fait daté de 40, mais il a été fait en 47 d'après ce premier dessin.
Voilà. Est-ce qu'on peut parler donc maintenant un peu des Amis du Louvre?
Oui, bien sûr.
Parce que donc, c'est vrai que donc, Marc Fumaroli est le président, vous êtes le vice-président des Amis du Louvre. Et rappelez-nous, combien d'adhérents est-ce que vous
70 000 à peu
70 000
près,
adhérents.
Oui, 70 000 adhérents qui suscitent à peu près par an des possibilités d'achat entre 2 et 3 millions d'euros, ce qui n'est pas rien quand on sait que le budget d'acquisition du Louvre est d'à peu près 8 millions. Et dans ces 8 millions, je crois, il faut compter maintenant les restaurations. Car on n'a pas réduit le budget, mais on a mis les restaurations dedans.
Oui,
donc les Amis du Louvre interviennent quand on leur demande. Parfois, ils suscitent d'ailleurs eux-mêmes certaines idées d'acquisition. Et puis, ils essayent d'acheter pour tous les départements. Récemment, ils ont beaucoup fait pour les objets d'art. Non seulement ils ont acheté le dais de Charles VI, ils ont acheté le Potawai, l'un des deux Potawai qui est exposé dans l'une des salles d'objets d'art.
On dit Potawai, justement. Hawaii,
oui, oui, Hawaii, c'est un potage. Hein.
On en avait parlé, oui. Ça.
Et qui est un exemple très beau d'argenterie Régence. Comme vous savez, il y a très peu d'argenterie Régence, Nicolas Beignet, donc c'était important. Mais nous avons aussi donné, sur 3 ans, 3 millions pour la restauration des...
C'est nouveau ça, parce qu'avant, les Amis du Louvre ne faisaient qu'acheter.
Voilà,
moi, personnellement, en tant qu'ami du Louvre, je fais partie des Amis du Louvre, et je préférais qu'on se consacre aux achats d'œuvres, mais bon.
Voilà, c'est une décision qui a été prise par le Conseil, à la majorité, donc, si vous voulez, dans nos statuts, nous devons aider de toutes les façons possibles au rayonnement du musée. Donc c'était une façon d'aider au rayonnement. Nous aidons aussi au rayonnement en finançant deux revues. L'ancienne revue du Louvre, la revue savante, si vous voulez. C'est pratiquement nous qui la proposons à nos bienfaiteurs et elle survit vraiment grâce aux Amis du Louvre. Quant à Grande Galerie, nous avons commencé d'abord par la donner à nos bienfaiteurs, puis à nos sociétaires, puis maintenant à tous nos membres. Il y a eu un vote de l'Assemblée Générale qui a décidé que pour une somme minime, chaque année de 10 euros supplémentaires de cotisation, tout le monde la recevrait. Donc du coup, Grande Galerie est devenue une revue à très forte diffusion, et on peut dire qu'elle est vraiment aussi soutenue très fortement par les Amis du Louvre.
Au départ de Grande Galerie, j'étais un petit peu critique. Je trouve que la revue s'est beaucoup améliorée.
Oui, moi aussi.
Clairement. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous n'abandonnez pas. Moi, la crainte était que Grande Galerie se substitue à la Revue du Louvre.
Nous tenons beaucoup à ce que la Revue du Louvre. Alors donc, je disais aussi que nous avions beaucoup acheté pour les objets d'art, mais si on examine notre, on peut pas parler de politique d'achat parce que vous savez comme moi que une politique d'achat idéale, ça serait de définir des buts s'il y avait pas le marché. Mais le marché fait que on achète ce qui se présente.
Et quand vous achetez, c'est des consommateurs qui viennent vous voir ou des fois vous êtes à l'origine?
Parfois, on est à l'origine. Par exemple, il y a quelques années, je me souviens, c'était du temps de François Puot, nous avons eu l'idée d'acheter le dessin de Géricault, le premier des dessins pour l'affaire Fualdès, parce que c'est un dessin qui appartenait à quelqu'un que nous connaissions, et c'était un dessin très important, naturellement, pour cette séquence de l'affaire Fualdès. Et donc, on a eu l'idée, nous, de dire, on va acheter ce dessin. Parfois, il y a des membres qui proposent des acquisitions. On vote, c'est un conseil qui vote, qui n'est pas indifférent. Parfois, il doit voter entre plusieurs choses. Il y a une quinzaine d'années, je me souviens, on a beaucoup discuté au moment du centenaire, parce que il y avait le fameux portrait de David, Juliette de Villeneuve, le plus beau des portraits bruxellois de David, et puis il y avait aussi deux baromètres du comte de Toulouse, qui étaient des très beaux objets d'art, et finalement il y a eu un vote, est-ce qu'on dépense notre argent pour le tableau ou pour les objets d'art, et aux deux tiers, on a décidé d'acheter le tableau de David, qui maintenant est quand même des grands ornements de la salle d'art.
Et là, si j'ai bien compris, en fait, plus que bien compris d'ailleurs, il y a beaucoup de trésors nationaux qui sont menacés de sortie actuellement. Est-ce que vous avez été sans donner peut-être pour préserver la... est-ce que vous avez été contacté pour des trésors nationaux?
Il nous est arrivé de participer, par exemple, pour le comte Mollet d'Ingres. Nous avons...
qui était payé très cher. Un tableau que j'ai trouvé, payé 19 millions d'euros, c'était quand même très élevé.
Je crois que c'est l'œuvre d'art la plus chère achetée par un musée français dans l'histoire des musées français.
Qui me confirme un petit peu que c'était très cher. est-ce qu'il y a d'autres activités qu'on a oubliées de vos activités? On verra tout à l'heure une autre activité dont je voudrais qu'on parle un petit peu. C'est le romancier, mais est-ce que il y a d'autres activités dans des associations dans lesquelles vous faites partie? Vous avez parlé d'Artena, donc ça, oui, on n'en dira jamais assez de bien.
Bien sûr. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres activités, puisque vous en avez beaucoup?
Non, je vois pas. Non. Collectionneur, écrivain, historien d'art.
Et romancier, donc, puisque. Malheureusement, ça fait combien de temps que vous n'avez pas écrit de roman? Pas publié de roman, en tout cas.
Depuis 88, ça fait longtemps.
Voilà. Alors, moi, je me rappelle, quand j'étais à peu près à l'école du Louvre à cette période, et j'avais lu en particulier L'amateur d'absolu. Alors, ne me demandez pas je me rappelle que c'était très bien. Simplement. J'en ai un souvenir vraiment excellent. Ça se passait dans le milieu, évidemment, des collectionneurs, des amateurs d'art, etc. C'était un très bon roman.
C'était un roman qui se passait au Louvre.
Voilà.
C'était un roman qui se passait entre les conservateurs et les collectionneurs.
C'était un roman à clé, je ne sais plus. Il y avait des noms qu'on peut reconnaître.
On peut pas dire que ça soit à clé. Vous savez, un écrivain fonctionne en construisant des personnages, en prenant un peu chez l'un ou chez l'autre. Donc, il y avait des personnages dont on pouvait imaginer certains caractéristiques plutôt, et qui apparaissaient là. Mais c'était pas vraiment un roman à clé. Et il formait une sorte de diptyque avec celui qui a été publié après, qui s'appelle La ciguë avec toi. Et curieusement, ces deux livres qui ont été publiés à la table ronde, qui sont introuvables maintenant, on me dit souvent, mais vous devriez les rééditer, et en fait, ils sont libres de droits, puisque la table ronde m'a rendu les droits. Mais ça n'a pas l'air d'intéresser qui que ce soit, alors je lance un appel, si ça intéressait quelqu'un de les...
Justement, j'allais vous demander où peut-on les trouver.
On ne les trouve plus.
Il ne faudrait pas que les publier sous forme électronique, à la limite.
Je ne sais pas, on voit tellement de romans. À vrai dire, quand je les ai publiés, l'idée de publier des romans sur le monde de l'art n'existait pas. Or qu'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu une tarte à la crème.
On parlait d'Adrien Goetz, donc qui s'occupe du Grand Carré, qui publie
c'est des choses maintenant tout à fait banales que les romans qui se passent dans le monde de l'art. La ciguë avec toi était peut-être même plus intéressant que L'amateur absolu, parce que La ciguë avec toi était l'histoire d'un tableau. C'est-à-dire que l'histoire se passait en trois temps. Le premier temps était au 19e, on assistait à la création du tableau, par un peintre dans lequel on pouvait reconnaître certains caractères de Chassériau, sur qui j'avais beaucoup écrit à l'époque, mais romancé naturellement, il avait une sœur au lieu de deux, etc., etc. Et puis ensuite, le tableau réapparaissait, et on se demandait dans les cercles officiels si on allait l'acheter. Et le tableau était porté à l'Élysée, puisqu'on avait besoin d'argent, et Mitterrand regardait le tableau, et s'interrogeait devant le tableau, puisque c'était Mitterrand qui était président à l'époque.
Aujourd'hui, on porterait ça à François Hollande, qui ne connaîtrait évidemment pas le nom du peintre. J'exagère à peine.
Je ne sais pas.
Tout le monde sait que François Hollande ne s'intéresse absolument pas à l'art, donc bon, enfin voilà. C'est un peu triste, on est passé de Mitterrand à Hollande. En tout cas, sur le plan de l'histoire de l'art,
il s'intéresse à l'esthétique féminine.
Oui, voilà, c'est pas forcément ce qui lui a le plus réussi. Bon, nous sortons peut-être du domaine de l'histoire de l'art ici. Pourquoi n'écrivez-vous plus de romans?
Ben, parce que, si vous voulez, j'ai beaucoup lu, la littérature était vraiment mon premier amour, et je me suis dit qu'au fond, il y avait des gens qui écrivaient tellement bien, tellement mieux que moi.
Si tout le monde se disait ça, plus personne n'écrirait.
Non, mais je veux dire que bon, on se rend compte très vite qu'on ne sera ni Proust ni Joyce. On voit cette inflation ridicule de romans à la chaque rentrée.
647, je crois, cette année.
Je sais pas. 647. Enfin, bon, on lit des choses sans aucun intérêt. Le goût pour la littérature actuelle s'oriente vers des thèmes qui m'intéressent pas. Moi, toutes ces, Je suis plus très très tenté. Bon, j'ai un recueil de nouvelles dans mes portefeuilles, mais je trouve par contre que les deux romans, là, il y en a d'autres, mais les deux romans, L'amateur absolu et La cigale avec toi, mériteraient, je pense qu'il y aurait un public pour eux si on les réédite.
Vous savez que maintenant on peut éditer sous forme électronique.
Oui, peut-être, ça pourrait être une bonne idée.
Voilà. Et j'ai lu aussi, ça je crois que c'est dans The Artus Paper, que vous étiez prêt à donner toute votre collection pour écrire un paragraphe comme Proust.
Oui, ou comme Updike, ou comme Joyce, enfin bon. Non, mais bien sûr, on aimerait avoir un génie littéraire que l'on n'a pas, et voilà, c'est pas... Il y a des gens qui écrivent très très bien, là, je viens de lire... un texte de mon ami de Dominique Cordelier qui a pas encore publié mais qui a écrit un ravissant essai biographique mais romancé sur un peintre que vous devez aimer comme moi qui s'appelle Michael Swerts, un des grands peintres hollandais du 17e, un peu mystérieux, qui a été allé mourir à Goa, on sait même pas quand ni comment, et il a fait un texte absolument admirable que j'aurais aimé écrire. Je lui ai dit que j'étais un petit peu jaloux.
Quelques livres que nous avons reçus, pas forcément tous ceux que nous avons reçus depuis la dernière émission, mais une petite sélection, avec d'ailleurs un catalogue que vous regardiez, que Louis-Antoine Prat regardait juste avant l'émission, puisqu'il a découvert que... Alors ça s'appelle Master Drawings from the Minneapolis Institute of Arts, donc c'est une sélection de dessins, c'est un très beau livre d'ailleurs, une sélection de dessins du musée de Minneapolis, où d'ailleurs un de ces dessins est reproduit, lequel est-ce?
Voilà, parce que Minneapolis, vous savez que...
Vous l'avez découvert là?
J'ai découvert, ouais. Enfin, je savais bien sûr que Minneapolis avait ce dessin, parce qu'il est cité dans les catalogues de ma... collection. Vous savez que Prudhon, quand il a peint Psyché enlevé par les Zéphyrs, le fameux tableau du Louvre, en a fait plusieurs réductions graphiques. Il se trouve que j'ai pu en acquérir une dans la nuit des temps.
Qui est exposé d'ailleurs
dans toutes les expositions de ma collection. Et il y a une autre version pratiquement semblable au musée de Minneapolis. Donc là, ils ont publié le leur, en montrant le mien évidemment, et en disant que les deux sont authentiques. Mais, ce qu'ils ne disent pas, c'est que Sylvain Lavessière, qui connaît les deux versions, a dit plusieurs fois que la mienne était légèrement supérieure, ce qui m'a fait plaisir. Voilà. Mais je crois que les deux sont authentiques. Évidemment, Prudhon est un artiste merveilleux, c'est un de mes dessinateurs préférés. J'ai pu avoir beaucoup de dessins de lui, et c'est un artiste dont on ne se lasse pas d'admirer la facilité.
Alors, parmi les autres livres reçus, un ouvrage très érudit, vraiment pour spécialistes, mais en même temps, c'est le genre de publication qui est très importante, par la Société d'Histoire de l'Art Français. C'est donc la Société d'Histoire de l'Art Français, dans les archives de l'art français, a publié un livre sur le meuble français à l'exposition universelle de 1878, demande d'admission et questionnaire rempli par les exposants dans la classe 17, meuble de luxe et à bon marché. Donc effectivement, pour l'histoire du mobilier du 19e siècle, c'est extrêmement important, puisque c'est une source... avec énormément d'informations sur les ébénistes. En même temps, c'est vrai que c'est un ouvrage extrêmement pointu.
Alors, ce sont les gens qui copiaient les meubles 18e.
Non, ce sont les gens. C'est presque que j'ai compris, parce que je n'ai pas lu le livre que j'ai reçu il y a peu de temps. Ce sont les admissions à l'exposition universelle. Donc, ce sont les fabricants.
Oui, mais expliquaient. Peut-être ceux qui imitaient les meubles 18e.
Ah oui, tout à l'heure, oui. Mais c'est ça. Mais
je crois c'était quand même. À l'époque, c'était très.
Les Fourdinois, par exemple.
Voilà, les Sormani, les.
Imitation, je n'aime pas trop. Non, c'est une réinterprétation.
Réinterprétation, absolument.
Le néo-gothique n'est pas une copie du gothique.
Voilà. Comme sous Louis XVI, on imite le boule, enfin. Voilà.
Dans les autres ouvrages reçus, donc une exposition que j'ai pu voir également dans mon périple du côté de la Loire, au musée, donc c'est pas tout à fait dans la Loire, c'est dans la Sarthe, au musée du Mans, au musée TC, une exposition des dessins du musée des Beaux-Arts d'Angers, des dessins 19e. Donc vous voyez, donc ce sont les dessins principalement de trois artistes. Mais alors je ne sais pas si vous en avez dans votre exposition, dans votre collection, puisque ce sont des entre guillemets des, ce sont pas les, mais il y a le neveu, donc dessin de le neveu,
bien sûr.
Jules Eugène le neveu, dessin de Bodinier, Guillaume Bodinier, et les dessins de Turpin Crissé.
Voilà, les gens qui ont été en Italie. Quoi.
Voilà, les gens qui ont été, c'est ça, c'est sur le souvenir d'Italie, ça s'appelle, dessin du musée des Beaux-Arts d'Angers, et donc ce sont donc essentiellement les Angevins qui sont allés en Italie, mais pas uniquement, également d'autres artistes.
Mais Angers travaille très bien parce qu'ils ont publié plusieurs choses sur leur fonds de dessin.
Exactement, ils ont
alors surtout les plus beaux dessins d'Angers et donc en autre.
Et donc un petit scoop entre guillemets, très petit scoop qui intéressera les amateurs du 19e. Ils ont déjà fait une exposition sur Turpin Crissé, sur Bodinier, et je peux annoncer donc qu'il y aura une exposition sur le neveu, Julien Lejeune le neveu, qui va être préparé par le musée. C'est le seul prix de Rome de peinture, David d'Angers étant le prix de Rome de sculpture. Donc le neveu, il y a un fonds important au musée d'Angers. Je publierai d'ailleurs dans les prochains jours des acquisitions récentes de petits tableaux de le neveu. Ce petit catalogue et cette exposition est très intéressant.
C'est bien le neveu qui a peint le plafond de l'opéra.
Tout à fait.
Qui est caché par le Chagall.
Caché par le Chagall.
Alors à l'époque, nous avions avec Jacques Foucart fait ce livre sur les peintures de l'opéra, les décors de mise en scène, mais les peintures du lieu du palais Garnier, en rééditant le texte de Garnier, c'est dans la nuit des temps, on a dû faire ça pour Artella dans les années 80. Et nous avions d'ailleurs à l'époque écrit que le plafond de Chagall cachait le plafond de Le Neveu, et que c'était, le plafond de Le Neveu évidemment était en harmonie avec tout ce que Garnier avait voulu comme décor, alors, tandis que le plafond de Chagall, personnellement je trouve une horreur, ne correspond pas
alors,
du tout.
Deux choses sur ce plafond. Premièrement, il y a un documentaire qui va passer. Alors, j'ai été interviewé pour ça devant l'opéra, disant qu'il faudrait enlever plafond de Chagall pour libérer le neveu.
Les grands esprits se rencontrent.
Mais ça ne veut pas dire, moi je ne déteste pas le plafond de Chagall, mais personnellement, ce que j'ai appris depuis, c'est qu'à l'époque, Chagall était tout à fait conscient de ça et a dit il faut qu'on puisse enlever mon plafond. Il n'était pas très à l'aise en fait. Je vais essayer de le documenter parce que quelqu'un d'assez certain l'a dit dans la presse de l'époque. Il avait dit mais si on veut l'enlever, on peut l'enlever. Donc même Chagall ne s'y opposait pas.
Non, parce que Garnier avait voulu cet opéra comme une œuvre d'art totale. Exactement. Il avait choisi ses peintres, Baudry, que j'ai beaucoup aimé, sur qui j'ai un peu écrit pour le décor du grand foyer. Et puis le neveu, c'était la ronde des heures et de la musique comme ça. Ça allait parfaitement.
C'est absurde. En plus, ce plafond derrière celui de Chagall, si s'abîme, on ne le verra pas.
On ne sait pas ce qui devient.
Mais il est derrière. Et en tout cas, je vais essayer de retrouver, si jamais des auditeurs peuvent m'aider à retrouver ces textes où Chagall dit qu'il faudra un jour enlever son plafond, ça serait intéressant parce que si jamais on propose ça, on va nous crier c'est un scandale, etc. Alors que Chagall lui-même était conscient du fait que c'était pas une très bonne action. C'est Malraux qui avait décidé ça, de cacher le plafond de Chagall.
À une époque où on méprisait les œuvres des pompiers d'une façon incroyable.
Complètement. Autre catalogue d'exposition. Alors, un catalogue d'exposition, je n'ai pas vu, je le verrai peut-être, puisque il est actuellement, je pense que ça se termine, à Roubaix et à Bergues. Le commissariat est assuré par Patrick Descamps, qui est conservateur du musée du Mont-de-Piété de Bergues. Il ira ensuite à Nantes. Puis à Beauvais, c'est une exposition sur Amédée de la Patellière, un peintre assez séduisant du début du XXe siècle. Donc c'est un beau catalogue publié par Gourcuff Gradenigo. Une exposition que je n'ai pas pu voir non plus, je veux dire que je ne suis pas un grand amateur de Renoir, mais le catalogue est vraiment bien fait. C'est Daniel Marchisseau qui est commissaire d'une exposition Renoir à la Fondation Pierre Giannada. Je ne sais pas si elle est terminée, mais en tout cas, le catalogue existera toujours. C'est pour ça que le catalogue est important. Reçu également dans les collections des presses universitaires de Rennes, dont à chaque fois je m'émerveille de leur productivité. Watteau, Confluent des Arts et Esthétique de la Grâce. Donc ce sont deux colloques. Watteau, qui est un de vos artistes. Vous avez participé à ces colloques ou pas ?
Non, pas du tout.
Ce sont deux colloques qui ont eu lieu à Valenciennes. Et donc ce sont les actes des colloques sous la direction de Valentine Toutain-Quitelier et de Chris Roseau. Quelque chose qui a lieu actuellement, c'est une exposition sur Jean-Louis Laneuville, portraitiste et marchand expert, je dois avouer que je ne connaissais pas cet artiste, qui est une bonne élève de David.
C'est celui à qui on a donné un tableau qui a longtemps été donné à David, qui était le portrait d'un représentant aux armées, je crois.
C'est pas étonnant parce que franchement, quand on voit ça, on voit ces portraits, c'est quand même très 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 davidien, et c'est de vraiment belle qualité, donc c'est certainement une redécouverte à faire au musée de la Révolution française à Isère. Le catalogue est dû à Valérie Lavergne-Duret. Donc,
que je connais bien.
Voilà. Et donc,
l'épouse de Philippe. Voilà. L'épouse je viens de voir la photo du fameux représentant.
Voilà. Donc, c'est un beau catalogue. Et surtout, c'est un catalogue, c'est le catalogue complet de l'œuvre.
Oui,
donc, c'est vraiment un ouvrage important sur lequel on essaiera de revenir. Mais en tout cas, on n'a pas vu l'exposition malheureusement. Mais l'exposition a lieu au musée de la Révolution française à Vizil, qui est très actif également pour les acquisitions. Toujours, alors, pour le portrait sous la Révolution. Un livre anglais publié par The Pennsylvania State University Press qui s'appelle Portraiture and Politics in Revolutionary France. Je ne sais pas pourquoi, les Américains ont toujours été très friands de la Révolution française et certains des meilleurs spécialistes sont américains. Donc c'est un livre que je n'ai pas lu non plus, je viens de découvrir.
Peut-être parce qu'on les a aidés à faire leur propre révolution.
Peut-être. Donc c'est un livre sur le portrait révolutionnaire. Et enfin, le dernier numéro, alors on peut pas appeler ça vraiment une revue, hein, puisque c'est on donne, à chaque fois qu'on le reçoit, le sommaire dans la Tribune de l'Art, c'est Artibus et Historiae, donc c'est un volume, en fait, à chaque fois, mais c'est une revue avec énormément d'articles, sur l'Italie, sur la France, etc. C'est quelque chose de tout à fait, remarquable. Par exemple, on trouve, à la croisée des genres, Louis XIV et le portrait équestre, donc c'est un article sur, de Damien Bril. Enfin, il y a beaucoup d'articles, savant de cette revue Artibus et Historiae, le numéro 69 de 2014. Voilà. Une dernière chose, Louis-Antoine Pratt, quelles sont les expositions que vous avez vues très récemment? Vous me disiez que vous êtes allé à Londres.
Oui, j'ai vu l'exposition à la National Portrait Gallery sur Virginia Woolf, qui était très émouvante. Et là encore, un grand écrivain qui donne envie d'écrire en même temps et de ne pas écrire parce qu'on se dit qu'on n'arrivera jamais à ce niveau brillant d'expression. Et puis la très belle exposition qui se terminait sur Kenneth Clark. Kenneth Clark, dont tout le monde sait qu'il a fait cette série Civilization pour la télévision britannique, mais qui a été aussi un grand collectionneur.
L'exposition a lieu où?
L'exposition, elle est finie, elle était à la Tate Britain. Et elle montrait une partie de la collection de Clark, très inégale, avec des peintures anglaises un peu difficiles du XXe siècle, mais des très beaux. Il a été très lié à Henry Moore, des magnifiques Henry Moore, et puis des Cézanne, naturellement, il a beaucoup aimé Cézanne, comme Roger Fry avant lui, comme tous les gens de Bloomsbury, et c'est intéressant de... Moi, j'aime beaucoup les collections des historiens d'art, parce que elles sont toujours un reflet de leur personnalité, et c'est ça qui est séduisant.
Et un mot sur un livre d'histoire de l'art que vous avez lu récemment, ou est-ce que vous êtes contenté de les écrire?
J'ai surtout relu, pour le cours que j'écris, les Goncourt, évidemment, à la fois le journal, l'art du 18e, la maison d'un artiste, les Goncourt qui écrivent dans ce style que je trouve insupportable, cette espèce de langue, vous savez ce qu'ils appellent l'écriture artiste, c'est vraiment... Mais il y a des jugements assez justes, et puis...
des livres peut-être plus récents, parce que les Goncourt...
Oui, non, je relis souvent les livres d'Haskell, notamment le livre qui s'appelle « La norme et le caprice », « Jadis et naguère », des choses comme ça. Il y a des articles. Haskell avait une façon d'aborder l'histoire de l'art comme une promenade, c'était tout à fait merveilleux. Je l'ai un peu connu, c'est un homme extrêmement charmant. Et puis évidemment, il faut dire le grand effort des éditions Céphaton, je crois, qui réédite les œuvres de Jacques
Thuillier. Ah oui, alors
œuvres de Jacques Thuillier.
Oui, alors ça, je
petit
dois...
À petit,
j'ai un article en préparation.
C'est un immense plaisir, Jacques Thuillier. J'aimais énormément Jacques Thuillier, c'était vraiment un ami très proche. Et on est content de retrouver ces œuvres qui, petit à petit, comme ça, vont être réunies. Espérons-le, pour l'éternité, en tout cas pour notre éternité.
Alors un article est en préparation pour la Tribune de l'Art, parce qu'effectivement, j'ai découvert en même temps qu'il avait pas mal de communs pour le patrimoine, qu'il avait publié pas mal d'articles, en particulier sur les églises.
Oui, bien sûr, sur la défense du patrimoine.
Ben écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous de
pour cette
invité.
Invitation.
Merci.
La semaine prochaine, exceptionnellement, nous venons de recommencer, mais il n'y aura pas d'émission, puisque, comme vous le savez, la Tribune de l'Art, en partenariat avec Teralto, organise un voyage à Rome, où une vingtaine de lecteurs viennent à Rome, et j'aurais le plaisir de faire partie de ce voyage. Un second voyage est d'ailleurs organisé en novembre. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez voir l'information sur le site. En revanche, dans deux semaines, nous recevrons Emmanuel Starkey, président du château de Compiègne. Merci, à bientôt.